Ici Francis Richard, nous sommes le 16 décembre 2010 et je vous parle de Suisse romande. L'Union européenne voudrait bien que la Suisse lui mange dans la main. L'Union européenne, cette construction hétéroclite et bureaucratique, antidémocratique et sans âme, deux pays complètement dissemblables, dont les échecs répétés sont la marque de fabrique, se permet d'imposer sa manière de voir à la petite Suisse, qui certes n'est pas parfaite, mais se porte tout de même mieux que ses 27 partenaires bilatéraux de l'Union, qui sont autant de donneurs de leçons et qui devraient plutôt balayer devant leurs portes. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union passe d'abord la brosse à reluire. Les relations entre l'Union européenne et la Suisse sont bonnes, intense et étendue. Dans cet ordre d'idées, il se félicite de beaucoup de choses. Du fait que la Suisse soit un des principaux partenaires économiques de l'Union européenne, de la participation de la Suisse à l'espace Schengen, du percement du tunnel du Gotthard, de la coopération de la Suisse dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité commune, de la contribution en pièces sonnantes et trébuchantes, de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union. Puis, progressivement, le Conseil montre les dents. Il commence par prendre note que la Suisse vient de confirmer son choix de continuer à conclure avec l'Union des accords dans des secteurs choisis, et par dire que cette approche sectorielle a permis une coopération plus étroite entre les deux. L'objection vient tout de suite après. Cette approche sectorielle s'est traduite au fil des années par un ensemble très complexe d'accords multiples. À qui la faute? Signons à l'Union européenne, qui n'arrête pas de pondre directives et réglementations qui représentent des centaines de milliers de pages, illisibles et inapplicables. Toujours est-il que le Conseil est préoccupé par plusieurs points qu'il considère comme incompatibles avec les accords signés grâce à cette approche sectorielle, tels que leur application incohérente, qui résulterait de l'introduction par la Suisse de mesures et pratiques législatives ultérieures, la distorsion de concurrence qui serait créée par les différents régimes cantonaux d'imposition des sociétés. Il est effectivement difficile pour tous ces pays, dont le déficit démocratique est patent, de comprendre que le peuple est souverain en Suisse, notamment en matière fiscale, ce localement, et qu'il a le dernier mot, alors que celui-ci n'appartient chez eux qu'à leurs prétendues élites. Il est difficile également pour ces pays de comprendre que la concurrence fiscale est un élément de la concurrence tout court, alors que chez eux, toute concurrence n'est qu'une liberté conditionnelle et révocable à merci et à tout bout de champ. Le Conseil ose pourtant parler sans vergogne d'insécurité juridique générée par la Suisse. Le Conseil passe alors à nouveau la brosse à reluire. C'est ainsi qu'il se félicite que la Suisse soit disposée à envisager une extension du champ d'application en matière de fiscalité des revenus de l'épargne, qu'elle se soit engagée à appliquer les normes de l'OCDE en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, ce que l'Union a obtenu sous la contrainte. Elle applaudit donc le procédé. C'est pour mieux asséner son coût, tout en respectant pleinement la souveraineté et les choix de la Suisse, pure clause de style. Le Conseil est arrivé, tout seul ou avec l'aide de la Commission, à la conclusion que le système actuel d'accords bilatéraux a bien fonctionné par le passé. Le principal défi pour les années à venir sera d'aller au-delà de ce système, qui est devenu complexe, difficile à gérer et a manifestement atteint ses limites. Encore une fois, à qui la faute? Quelles sont finalement les exigences de l'Union? La Suisse se devra d'appliquer et d'interpréter de manière homogène et au fur et à mesure les éléments de l'acquis en évolution. L'Union européenne ne conclura de nouveaux accords qu'en ayant à l'esprit la nécessité de garantir des progrès parallèles dans tous les domaines de coopération, notamment ceux qui posent des difficultés aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne. Ce qui signifie que l'Union européenne veut que l'on fasse comme elle, ce qui ne lui a pas réussi. C'est-à-dire que l'on s'aligne sur la même pression fiscale, sur les mêmes contraintes sociales, sur le même endettement, sur les mêmes réglementations pour tout et pour rien. Bref, elle demande à la Suisse de suivre docilement la route de la servitude qu'elle a tracée pour elle-même, où elle saura bien l'imposer par la force à la Suisse récalcitrante. Un seul souhait devant tant d'arrogance, que l'Union européenne se disloque le plus tôt possible, ce qui serait le meilleur service qu'elle rendrait à ses ressortissants et à la Suisse, qui n'a décidément rien à faire dans cette galère-là. Dans un entretien accordé à Die Zeit, aujourd'hui, Jean-Louis Juncker, Premier ministre luxembourgeois, patron de la zone euro, a le toupet de dire à propos de la Suisse que c'est une absurdité géostratégique, cette tache blanche sur la carte de l'Europe. Il vaut mieux qu'il ne sache pas ce que la tache blanche lui dit en réponse. Avant de quitter l'antenne, je rappelle à nos auditeurs que leurs réactions, leurs informations ou leurs commentaires sont les bienvenus et qu'ils peuvent nous les adresser par email en précisant seulement à quelle émission ils font référence. L'adresse email de la rédaction est radio-silence@wanadoo.fr. Je leur rappelle également qu'ils peuvent acquérir la carte annuelle d'amis de Radio Silence pour la modique somme de 20 euros. C'était Francis Richard qui vous parlait de Lausanne pour Radio Silence.